Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits, ravi de vous retrouver une semaine de plus. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver nos anciens podcasts, il y a près de 300 émissions que vous pouvez retrouver sur le site internet de Conflits ainsi que sur l'ensemble des plateformes. Et puis notre nouveau numéro qui est en kiosque et également sur notre site internet consacré au nucléaire, notre numéro de janvier-février. Numéro dans lequel nous analysons les liens entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Et puis, Conflits, c'est la nouveauté de cette année 2022. Conflits vous propose des cours en ligne, des cours qui sont réalisés par les principaux experts de Conflits, par les plumes que vous avez l'habitude de lire. Vous pouvez retrouver des cours. Chaque cours est composé de 5 heures, 5 heures divisées en 12 vidéos de 25 minutes, avec également des documents, des textes, des cartes. Vous pouvez retrouver ces cours sur le site internet de Conflits dans la rubrique « Cours de Conflits ». Et ces cours sont disponibles depuis une plateforme spécialement dédiée aux cours en ligne. Vous pouvez donc ainsi vous inscrire, voir également les cours qui vous sont proposés. Le premier cours qui vous est proposé est une introduction à la géopolitique que j'ai l'honneur de vous proposer, de conduire. Et puis ensuite, vous aurez un deuxième cours qui est une introduction à l'analyse du terrorisme réalisée par Daniel Dory, professeur à l'Université de La Rochelle. D'autres cours sont en préparation sur le Moyen-Orient, sur la mer, sur le Brésil, sur la Russie également. Vous serez régulièrement informé de ces cours qui vous sont proposés, l'occasion de vous former à la géopolitique et de pouvoir approfondir certains sujets. Alors cette semaine, nous allons aborder un sujet maritime, un sujet militaire aussi, en évoquant la figure de Surcouf. Et pour en parler, je reçois le professeur Michel Verger-Franceschi. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu au micro de Conflits. Vous êtes professeur émérite des universités. Vous avez notamment dirigé le laboratoire d'histoire maritime du CNRS, qui était rattaché à Sorbonne Université, autrefois Paris 4, et le Musée national de la marine. Vous avez écrit de très nombreux ouvrages consacrés principalement à l'histoire maritime, à l'histoire moderne également, qui est le sujet de vos études. Et vous nous proposez chez Passé Composé cette biographie de Surcouf, alors qui est une biographie, mais comme toutes les biographies, ça va au-delà de la personne, c'est aussi l'occasion de découvrir une époque. Et vous avez sous-titré cet ouvrage « La fin du monde corsaire ». Et vous insistez justement sur le passage, sur les évolutions. Surcouf est un homme alors très intéressant à bien des égards, évidemment, pour ce qu'il a fait d'un point de vue maritime, mais aussi parce qu'il fait partie de cette génération de Français qui est née sous l'Ancien Régime, et qui a connu la Révolution, qui a connu l'Empire, et donc il est né en 1773,
tout à fait,
sous Louis XV, et il décède en 1827 sous la Restauration, sous le règne de Charles X. Donc il est un de ces Français absolument chanceux, si je puis dire, d'abord qui a survécu à la Révolution, c'est une chance, mais qui en plus a vu des bouleversements importants. Peut-être commençons par là, Michel Verger-Franceschi. Un corsaire, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un mot qu'on entend beaucoup, mais
oui.
Qu'est-ce que c'est qu'être corsaire quand on est à l'époque de Surcouf?
Un corsaire, ça n'est pas un pirate, comme beaucoup de gens le croient, mais ils font la même chose, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils ont une technique de combat qui est identique, c'est l'abordage. On se jette sur un bâtiment ennemi en période de guerre, et le corsaire a à son bord une lettre de marque, c'est-à-dire une autorisation de courir su à l'adversaire en période de guerre, et il peut aller attaquer les Espagnols sous Louis XIV, les Anglais tout au long du XVIIIe siècle. Cette lettre de marque le protège, c'est-à-dire que s'il est pris par l'adversaire, il va être fait prisonnier de guerre, ce qui est un statut, il sera rendu ou à la paix ou échangé contre un autre marin du camp ennemi. Par contre, le pirate, c'est, j'irais presque jusqu'à dire, un vrai voyou, c'est-à-dire quelqu'un qui attaque un peu comme on le fait aujourd'hui pour les convoyeurs de fonds devant une banque. C'est quelqu'un qui n'est pas autorisé par un État souverain à courir su à l'ennemi. Et que ce soit en période de paix ou en période de guerre, le pirate, avec une même technique, l'abordage, s'empare de bâtiments, quels qu'ils soient, quelqu'un comme le père d'Abraham Duquesne, par exemple, était un vrai pirate. Il était normand, il attaquait les bâtiments bretons en disant « ce sont des bâtiments qui sont étrangers par rapport à moi ». Et l'inconvénient pour le pirate, c'est que s'il est pris, lui, par l'adversaire, il n'est pas possible d'en faire un prisonnier de guerre. Il est pendu haut et court à la plus haute vergue de son navire, et donc ça n'est pas du tout quelqu'un qui arme en course, comme Surcouf par exemple.
Est-ce qu'on peut dire que le corsaire, c'est une sorte de mercenaire pour l'armée terrestre ?
Oui, c'est une sorte de mercenaire. Il a une lettre de marque, c'est un combattant officiel, mais évidemment, d'où le titre de la fin du monde corsaire, Surcouf est quelqu'un qui est né à un moment où la course continuait à être quelque chose de glorieux. On pense toujours, et j'ai fait beaucoup de comparaisons dans ce livre parce qu'il n'y a de bonne histoire que comparative. Donc, qui est Surcouf par rapport à Jean Bart, qui est Surcouf par rapport à son petit cousin du siècle précédent, Duguay Trouin. Et donc, il fallait le comparer. Et c'était glorieux d'être corsaire. Mais au moment de la Révolution, de très grandes voix, dont Condorcet, se sont élevées contre le principe de la course parce que c'est attaquer des bâtiments qui ne sont pas susceptibles de résister, avec parfois des femmes à bord. Et donc, ces corsaires vont tuer du monde, vont tuer des commerçants finalement, des négociants, des gens qui transportent des marchandises et non pas des soldats. Et donc, la course est dans le collimateur de la Révolution française et on va aboutir, 30 ans après la mort de Surcouf, à l'abolition de la course dans les années 1850.
Quand Surcouf débute, quand il naît fin 18e siècle, la marine est à un certain stade. Quelles sont les principales évolutions techniques de la marine entre la fin du 18e et puis la période de l'Empire et de la Restauration ?
Alors, Surcouf naît à Saint-Malo en 1773, c'est-à-dire à un moment où la marine française va atteindre, ou plus exactement réatteindre, une période d'apogée. En 1690, sous Louis XIV, comme en 1780, au moment de la guerre d'indépendance américaine, les marines, que ce soit celles de Louis XIV, que ce soit celles de Louis XVI, sont absolument extraordinaires et sont capables de faire jeu égal et de vaincre les Anglais, notamment pendant l'enfance de Surcouf, pendant la guerre d'indépendance américaine. Il a 7 ans au moment de la victoire de la Chesapeake, par exemple, au moment des victoires de l'amiral Comte de Grasse, au moment des victoires du bailli de Suffren, au moment donc des victoires de toutes les grandes figures. On peut même y ajouter le comte d'Estaing, même s'il a été moins chanceux que Grasse ou que Suffren. Et donc, il naît en plein essor ou renouveau de cette marine française, renouveau dû à Choiseul, dû au grand ministre de Sartine ou Monsieur de Castres, par exemple. Ce sont les trois grands restaurateurs de cette très belle marine de Louis XVI, qui est une marine qui permet de donner l'indépendance aux États-Unis d'Amérique à partir de 1780-83.
Et il décède quelques années avant la marine à moteur. Dumont d'Urville est un des derniers à faire des explorations à la marine à voile.
Tout à fait. Il décède en 1827, c'est-à-dire à un moment où les marines se sont transformées, les coques qui étaient en bois sont de plus en plus doublés en cuivre à la fin du XVIIIe siècle et la marine est en train de glisser vers les marines que l'on va appeler en fer au lieu des marines en bois où la vapeur va remplacer petit à petit la voile. Fulton, c'est 1807, c'est-à-dire en plein milieu de la vie de Surcouf. En 1807, c'est un garçon qui a une trentaine d'années. Surcouf meurt assez prématurément, il meurt à 53-54 ans en 1827 et c'est le début de toutes ces mécanisations qui vont donner sur mer le bateau à vapeur avec Fulton, qui vont donner sur terre la locomotive avec Stephenson en 1830.
Vous avez évoqué tout à l'heure la puissance de la marine française. On a un complexe souvent d'infériorité en France. D'abord, on oublie qu'on est aussi une grande puissance maritime, que nous ne sommes pas qu'une puissance terrestre. Et on a toujours un complexe à l'égard des Anglais. Probablement, c'est le subconscient de Trafalgar. On a l'impression d'avoir toujours perdu contre les Anglais. Or, vous l'avez démontré au cours de vos différents ouvrages, la France est une véritable puissance maritime avec une marine qui a longtemps été une des principales marines au monde.
Oui, tout à fait. La marine française a été une très belle marine, avec une différence par rapport aux Anglais. Et les universitaires anglais ou britanniques disent souvent la marine en Angleterre, c'est l'histoire d'un peuple, ce qui est assez vrai. Et en France, c'est toujours l'histoire d'un homme. Et c'est peut-être pour ça qu'on a mauvaise conscience, parce qu'on a une marine, ou plutôt des marines cycliques. On a eu la grande marine de Richelieu, qui est une marine expérimentale, qui est quand même extraordinaire. Richelieu est un génie politique au pouvoir pendant une vingtaine d'années, de 1624 à 42, et qui crée une marine qui va mettre fin à la prépondérance de la monarchie espagnole en Europe. Et à la mort de Richelieu en décembre 1642, on s'achemine vers le traité des Pyrénées en 59 sous Mazarin, qui va donner à la France le Roussillon, qui va donner à la France l'Alsace. Et Richelieu donc disait: qui veut vaincre sur terre doit dominer la mer. Et on s'en est encore aperçu pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la bataille de l'Atlantique. Après Richelieu, on a eu Colbert, qui lui aussi va battre la marine et la puissance hollandaise pendant la guerre de Hollande de 1672 jusqu'à la paix de Nimègue en 1678, avec une magnifique marine royale sous Colbert et également sous son fils et successeur, sous Seignelay. Et puis après, du temps de la régence à la mort de Louis XIV, le régent ménage beaucoup l'Angleterre, il va privilégier le commerce. La guerre commence à disparaître. Sous Louis XV, on n'a que 11 années de conflit, alors qu'on a eu 54 années de guerre sous Louis XIV. Et puis, sous Louis XV, à la fin de ce siècle que l'on appelle le siècle du bonheur, effectivement, en ce siècle des Lumières, la guerre ne représente plus que 5 années sous Louis XVI, contre 54 sous Louis XIV. Et donc, on a une véritable mutation du monde. Et ce monde du bonheur fait que le commerce a la primauté. Surcouf est quelqu'un qui va beaucoup naviguer dans l'océan Indien, qui va également être un armateur malouin, comme l'étaient son père et son grand-père, qui possédaient 10% de l'armement malouin lui tout seul, avec des exportations et des importations en direction des Antilles, en direction de la Guyane, et des importations qui se faisaient depuis Saint-Domingue, depuis la Martinique, depuis la Guadeloupe. Il ne faut pas oublier qu'à partir de 1750, on est dans une économie essentiellement coloniale et que les Français ne vont plus prendre de la soupe aux choux le matin avec du vin au sud de la Loire ou du lait au nord de la Loire, mais qu'ils vont prendre du café. Ce café est amer, ils vont y ajouter du sucre. Le café au lait apparaît dans le monde paysan à partir de 1750, alors que Madame Palatine, la belle-sœur de Louis XIV, eh bien, le matin, elle prenait de la choucroute avec une bonne chope de bière. Et donc, on change complètement de civilisation à partir de 1750. Les vêtements sont en coton, le mobilier évolue, les guéridons apparaissent, on les appelle des tables bouillottes. Dessus, on y pose des cafetières, on y pose des soucoupes, on y pose des tasses à café, des tasses à thé. Et donc, c'est un beau sujet d'agrégation que l'on donnait souvent, de l'épicé, l'épicé étant le XVIe siècle, le poivre, la malaguette, au sucré, le sucré étant le sucre, le chocolat chaud, qui apparaît dans cette deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Vous aimez bien effectivement évoquer ces éléments de la vie quotidienne, parce que ça donne beaucoup de choses sur l'évolution d'une société, tout d'abord, et aussi de sa connexion au reste du monde. Vous l'avez évoqué, le fait qu'on ait des tissus, enfin des vêtements qui ne soient plus exclusivement en laine ou en chanvre, mais qui soient en coton, montre qu'on s'approvisionne ailleurs. Vous évoquez aussi l'océan Indien. La France, à cette époque-là, des possessions en Inde, les fameux comptoirs, Yanaon, Kirika, Chandernagore, etc. Je ne les connais pas tous, mais au moins les principaux. Et donc, vous dites aussi, Surcouf n'est pas qu'un corsaire, c'est aussi un armateur. Il s'est beaucoup enrichi, il a fait beaucoup de commerce, avec l'océan Indien notamment. Ces comptoirs indiens, qu'est-ce qu'ils vendent à l'Europe au-delà des cotonnades? Voltaire se moquait un petit peu d'ailleurs en disant ça, c'est cette guerre avec les Indes, c'est une guerre pour les cotonnades et pour des choses très, très viles finalement.
C'est un petit peu vrai quelque part, parce que le XVIIIe siècle, c'est une poursuite de la mondialisation, parce qu'on parle beaucoup de mondialisation aujourd'hui. Cette mondialisation, elle est née en 1492. Tous les produits que nous consommons aujourd'hui, les tomates, elles sont arrivées d'Amérique, les haricots, ils sont arrivés d'Amérique avec leur propre nom qui est demeuré jusqu'à aujourd'hui, haricots, le café, le coton, le sucre, le tabac que les marins chiquaient. Et donc à partir de 1492, j'avais fait une conférence là-dessus aux Archives nationales il y a quelques années, ça n'est pas un phénomène nouveau. Bon, il est évident que c'est un phénomène qui s'est amplifié dans les cinq siècles qui nous ont précédés. Et donc, lorsque l'on arrive au XVIIIe siècle, on est véritablement dans cette mondialisation. Et vous parlez de l'enrichissement de Surcouf, c'est tout à fait vrai. Il a laissé une fortune considérable, qui est l'équivalent du prix de 4 châteaux de Combourg au XVIIIe siècle. Donc, c'est absolument énorme. Mais c'était un petit peu la règle du jeu. Ces produits tenter non seulement les élites, mais je n'aime pas trop que l'on reproche aux élites ce qu'elles faisaient, on va dire, à la Révolution, bon, que tous ces armateurs malouins, nantais, bordelais, pratiquaient notamment l'esclavage, la traite négrière, et que ceci ne profitait qu'aux élites. Mais les femmes qui faisaient les cigarettes, les cigarettières, qui roulaient ce tabac, qui arrivait des Antilles, des plantations, c'était de pauvres filles qui travaillaient pour gagner très médiocrement leur vie. Et donc, Surcouf est quelqu'un qui a une vingtaine d'années au moment de cette abolition de l'esclavage, qui n'est pas très clair, puisque on abolit la traite, mais on n'abolit pas l'esclavage. La Convention va revenir sur certains de ses décrets. Ensuite, on reprochera, je m'en suis beaucoup remarqué ça cet été au moment des conférences sur Napoléon. On a beaucoup reproché à Napoléon d'avoir rétabli l'esclavage. On ferait mieux de dire qu'il a été contraint de rétablir l'esclavage, parce que on était dans une société où tous ces gens du petit peuple, que ce soit les cigarettières qui faisaient des cigarettes, que ce soit les faïenciers qui faisaient des tasses, qui faisaient des soucoupes, que ce soit les petits orfèvres qui faisaient des chocolatières ou des théières ou ce qu'on appelle les pièces de forme, les sucriers en argent massif, etc. Tous ces gens-là qui travaillaient dans des manufactures, les manufactures de tabac, de faïence, etc., ou de porcelaine, les fabricants de meubles du Faubourg Saint-Antoine qui ont inventé des fauteuils avec des roulettes devant que l'on voit encore aujourd'hui chez les antiquaires pour pouvoir les approcher des guéridons où on allait servir le café, etc. On était dans une société qui était en complète mutation, et donc tout le monde est responsable de la tragédie qui était évidemment l'esclavage. Mais je n'aime pas que l'on fasse peser ni une responsabilité sur un personnage, que ce soit Napoléon ou Surcouf, et non pas sur une société. Et il ne faut jamais sortir un individu du contexte dans lequel il a vécu.
Et également du contexte, mais en général, enfin, c'est l'anachronisme contre lequel l'historien bataille, et surtout de voir le monde d'avant au regard de nos prismes intellectuels et moraux d'aujourd'hui.
C'est évident, il est évident qu'on ne peut que condamner des pratiques, bon, comme l'esclavage par exemple, qui est évidemment condamnable, mais on ne peut pas le faire reposer sur un homme, sur un individu, sur un groupe d'individus qui seraient les colons, qui seraient uniquement les notables. Toute une société est responsable, et cette société, il ne faut pas la regarder à travers le prisme malouin, il ne faut pas la regarder à travers le prisme français. Il est évident que Napoléon ne pouvait pas ne pas regarder ce que faisait l'Angleterre, ce que faisaient d'autres puissances, et il ne pouvait pas ruiner malheureusement l'économie française au profit donc de ceux qui étaient nos adversaires habituels, dont l'invincible Albion, qui était notre adversaire privilégié, si je puis dire, depuis la glorieuse Révolution, depuis 1688.
Que fait Surcouf pendant la Révolution ? Est-ce qu'il se rallie aux différents régimes ? Comment se maintient-il aussi dans la marine, qui était pas mal épurée pendant la période révolutionnaire ?
Alors, Surcouf, c'est un personnage absolument extraordinaire, parce qu'il crève l'écran tout au long de sa vie, surtout à partir de 1797, et qui est pourtant un grand absent de un certain nombre d'événements, puisque en 1789, en pleine révolution, il a 16 ans, mais il est en mer. Par conséquent, il échappe à toute la période de 1789-93, à l'exécution de Louis XVI, le 21 janvier 93, de Marie-Antoinette ou de Madame Royale. Il n'est pas là au moment des massacres de septembre de 1792. Il est dans l'océan Indien, où il y a aussi d'ailleurs des personnes comme M. de McNamara, qui était le chef de la division navale de l'océan Indien dans les Mascareignes, qui est assassiné pendant la Révolution en 1993. Ensuite, il est également absent de Trafalgar en 1805 parce qu'il n'a jamais voulu servir l'État d'une façon officielle. C'est-à-dire qu'il n'est pas entré dans la marine royale, à la différence d'un Duguay-Trouin, qui a fini officier général, lieutenant général des armées navales, ou d'un Jean Bart, qui a fini chef d'escadre. Il n'a jamais voulu donc être officier de la marine, ni royale, ni impériale. Ses contemporains le jugent parfois d'ailleurs sévèrement, en particulier les officiers, qui disent « nous, on sert l'État ». Et lui, c'est un particulier qui se sert et qui s'enrichit, et effectivement qui fait une fortune considérable par rapport aux généraux de brigade, de division de l'époque, qui vivent avec leur simple solde. Mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas être un patriote, puisqu'il combat l'Angleterre, et alors ça lui rapporte, mais ça rapporte aussi à la France, ses combats dans l'océan Indien, la prise du Quinte en particulier, sous l'Empire, et Napoléon d'ailleurs, le décor de la Légion d'honneur en 1804, c'est-à-dire à la première promotion de l'ordre, ce en quoi il ressemble beaucoup à son petit cousin Duguay-Trouin, qui avait été fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, et à Jean Bart, qui avait été fait aussi chevalier de l'ordre de Saint-Louis, à la première promotion, celle de 1694. Donc on peut faire de très nombreux parallèles, si ce n'est qu'il n'a pas été au service de la marine impériale.
Est-ce qu'il joue un rôle pendant le blocus continental, pour le forcer ou pour lutter contre les Anglais ?
Non, à nouveau, de même qu'il est absent à Trafalgar, pendant le blocus continental, bon, il est essentiellement dans l'océan Indien. Napoléon a pensé à lui pour justement ce blocus et pour essayer peut-être de lui faire commander la flottille de Boulogne qui était destinée à transporter l'infanterie française sur les côtes de la Manche, mais il a refusé, et c'est là qu'il y a une sorte de curiosité dans Surcouf, c'est-à-dire c'est l'homme des contradictions, parce que c'est un homme des Lumières, il appartient à la franc-maçonnerie, son oncle était vénérable de sa loge à Saint-Malo. Il évolue dans un milieu totalement maçonnique, mais il est capitaine négrier. C'est un bon catholique. La famille de sa femme appartient à la famille des frères Lamennais, par exemple. Mais il n'a pas de répugnance à faire des transports d'esclaves, y compris lorsque cela est interdit. Et ce qui va le lancer, c'est d'avoir justement pas toujours respecté la loi. En 1797, il va être obligé de s'expliquer sur ces captures qu'il fait en matière de traite négrière, alors qu'elle est interdite, mais on n'a pas de GPS à l'époque. Et donc, lorsque Paris prend une décision, il faut quand même penser qu'il faut environ 100-110 jours de mer pour que la décision arrive jusqu'à Port-Louis de l'Île-de-France. Et donc, lui se défend en disant « lorsque ces lois ont été votées, moi, je ne pouvais pas être au courant ». Donc, il va venir se défendre devant le Conseil des 500, 1797. Son nom apparaît du coup dans la presse. Le nom de Surcouf devient un nom connu du public. Et le Conseil des 500, c'est assez extraordinaire, finit par lui donner raison avec cette phrase magnifique en disant « Eh bien, les lois sont passagères et la munificence de l'État, elle, doit primer sur tout. » Et donc Surcouf est quelqu'un qui œuvre pour cette munificence de l'État, n'étant pas toujours dans le respect le plus absolu de la loi. Et à partir de ce moment-là, il devient une sorte de héros qui va être un héros bonapartiste. C'est quelqu'un qui a une grande affection pour Napoléon. Il va appeler d'ailleurs certains de ses navires le Napoléon à Saint-Malo. Il va devenir un armateur très tôt. Il ne faut pas oublier que le métier de la mer est un métier épuisant, que les santés sont ruinées au service très tôt et qu'il va prendre donc une sorte de retraite de corsaire au même âge que Duguay-Trouin, c'est-à-dire à 36 ans, et qu'ensuite il fait vivre essentiellement la population des hommes, des femmes, des calfats, des voiliers, des constructeurs, des charpentiers, des matteurs, qui font des navires marchands destinés au commerce vers les Antilles et vers l'océan Indien pendant les 20 dernières années de sa vie.
Être armateur, ça veut dire qu'il ne prend plus la mer, il organise les transactions, il fait du commerce, mais il ne monte plus à bord.
Voilà, exactement. Bon, il remontera une fois à bord sur un bâtiment qui est la Revanche, donc le Revenant, parce qu'il s'aperçoit que ses capitaines sont moins bons que lui et il va falloir aller mater une nouvelle fois les Anglais dans l'océan Indien. Mais c'est quelqu'un qui va construire des bateaux et qui devient, c'est assez curieux parce que ce n'est pas du tout l'image du corsaire que l'on a, un vrai bourgeois balsacien. Je raconte dans le livre qu'il va chez un bijoutier à Paris pour acheter justement des chocolatières et des théières en argent. Il achète de la jolie vaisselle, il achète des pendules, il fait donner des leçons de piano à sa fille, il met un de ses fils au collège à Paris. Et c'est un vrai bourgeois qui mange très bien, d'où peut-être sa mort prématurée, parce que des abus peut-être de cholestérol. Il a un ventre absolument énorme. C'est la raison pour laquelle on n'a pas voulu le mettre avec le directeur donc, de Passé Composé en photo de couverture, parce qu'il n'est pas beau. Lorsqu'il a 50 ans, je le retrouve chez son pharmacien à Paris en train d'acheter une ceinture à ventre, parce qu'il a un ventre absolument proéminent. Et on le voit manger des andouillettes, boire du bon vin, acheter du chocolat pour sa fille Éléonore. Et c'est un véritable bourgeois qui meurt en 1827, donc 3 ans après la mort de Louis XVIII, qui lui aussi était très gros, très ventripotent. Il meurt sous Charles X. Ça n'était pas du tout quelqu'un rallié aux ultras, rallié à Charles X. C'est quelqu'un qui restait bonapartiste, qui était épié par les Bourbons à partir de 1814-1815, après les 100 jours, parce qu'il est resté d'une fidélité à Napoléon jusqu'à la fin de sa vie.
Alors Surcouf est un Malouin, il est né et mort à Saint-Malo, enfin mort à côté de Saint-Malo, et ceux qui ont déjà été à Saint-Malo, qui connaissent, ont vu probablement la statue de Surcouf. Alors là, il est présenté de manière très svelte, athlétique, pointant du doigt l'Angleterre, prêt à embarquer pour aller attaquer des Anglais. Que représente Saint-Malo à l'époque de Surcouf? D'abord, c'est une île. C'est aujourd'hui, on voit très bien alors, sur une carte le bras qui a été le bras de terre qui a été édifié, construit pour rattacher la ville historique. Mais Saint-Malo est un port militaire important dans le royaume de France?
Non, c'est un port marchand. Les Surcoufs sont arrivés dans ce port du temps de Louis XIII. C'était des Normands, ça n'était pas des Malouins à l'origine. Ses ancêtres en 1640-42 faisaient sûrement partie de cette vague de Normands que l'on appelle les nupiers, non pas parce qu'ils étaient pauvres, ils étaient pauvres c'est vrai, mais surtout nupiers parce qu'ils marchaient pieds nus pour ramasser le sel et vendre ce sel au grenier à sel du roi à un certain prix, et ça leur permettait de gagner leur vie. Et dans les années 1640, il y a eu une révolte de ces pauvres hers normands qui ont quitté toute la région de Sérance, du sud du Bas-Cotentin. Ils sont arrivés à Saint-Malo. Les premiers Surcouf meurent à Saint-Malo, à l'hospice d'ailleurs, le trisaïeul et la trisaïeule de Surcouf. Ils vont d'abord devenir calfats, donc ils vont introduire de l'étoupe entre les planches pour rendre les bâtiments qui n'étaient pas à eux étanches, et puis ils deviennent pilotes, puis lieutenants. Et c'est une femme, ce qui peut paraître curieux, qui va lancer la traite négrière dans la famille Surcouf, c'est son arrière-grand-mère, et elle va avoir un fils qui devient un homme déjà très très riche. Le grand-père de Surcouf a fait fortune, mais il a eu 17 ou 18 enfants, et cette fortune, évidemment, à sa mort, est partagée entre une quinzaine de personnes, ce qui fait que le père de Surcouf n'était plus du tout au niveau du grand-père. Et moi, ce qui m'intéresse toujours quand je fais une biographie, c'est de chercher les motivations. Et Surcouf est quelqu'un qui a voulu, en quelque sorte, redorer le blason, si je puis dire, bien qu'il soit roturier. Et donc, il a voulu reconstituer la fortune de ce grand-père. On le voit en relation avec d'autres Malouins de son époque, notamment Chateaubriand, qui est né en 1768. Et ce que j'ai essayé de mettre un peu en lumière dans ce livre, c'est toute une génération. Napoléon qui est né en 69, Chateaubriand en 68, lui en 73. On est là avec un panel d'hommes nouveaux qui sont des gens qui ont entre 20 et 30 ans. Napoléon a 20 ans en 89, lui a 16 ans en 89, Chateaubriand a 21 ans. Et donc, on est vraiment dans un monde nouveau qui va ouvrir notre monde dans un contexte extrêmement difficile et dangereux, surtout en 93-94, au moment de la Terreur.
Vous citez Chateaubriand, effectivement, ils viennent de la même ville. Ils sont enterrés d'ailleurs pas très loin l'un de l'autre. Chateaubriand a quand même un très bel endroit pour être enterré. Il y a des relations entre les deux, entre Chateaubriand et Surcouf ?
Oui, il y a des relations, qui sont des relations d'intérêt, puisque la famille Surcouf, aussi bien le père de Surcouf que le père de Chateaubriand, était aussi capitaine négrier. C'est ce qui a permis d'ailleurs l'achat du château de Combourg, qui était un château ancestral, familial. Et le père de Chateaubriand a voulu racheter ce château dans un village qui était dans une très très grande misère. La description de Combourg par Arthur Jung est quelque chose d'extraordinaire. Arthur Jung se dit, mais il y a même un seigneur dans ce village, et ce château est même occupé. Ce château féodal, évidemment, n'est plus tout à fait à la mode en 1789-90, au moment des voyages d'Arthur Jung. Et il y a donc des achats d'hôtels particuliers, de terres, de maisons, entre les Surcouf, le frère de Surcouf et puis le frère de Chateaubriand. Il y a eu pas vraiment de correspondance, c'est pas du tout le même style. Quand on lit Surcouf et quand on lit quand on tombe sous le charme de la plume de Chateaubriand, ça n'a rien à voir. Surcouf est quelqu'un qui parle toujours d'intérêt, qui veut mener des opérations en course. Par exemple, en 1814, il va y avoir la paix, puisque Napoléon vient d'être battu avant de revenir avec les 100 jours, et il ordonne à ses corsaires, à lui, de reprendre la mer, parce qu'il a peur de la signature de la paix, et s'il y a la paix, il ne peut plus armé en course. Et c'est quelqu'un qui bâtit une fortune d'à peu près 800 hectares, plusieurs châteaux, aussi bien dans la banlieue, si je puis dire, de Saint-Malo, c'est assez curieux, sur les lieux d'origine de ses ancêtres normands. Il a voulu, un petit peu comme le font les Corses qui s'enrichissaient à Porto Rico, montrer à ses compatriotes ce qu'il était devenu. Donc il a racheté un château sur le lieu des ancêtres nu-pieds, et il va devenir planteur de tabac, notamment en Bretagne, et avoir cette fortune absolument considérable en 1827.
Et vous soulignez effectivement la différence par rapport à l'écriture, à la politique aussi. Est-ce que Surcouf a eu des enfants qui ont repris un petit peu le flambeau, ou sa lignée s'éteint pas directement, mais enfin, en tout cas, elle n'est pas aussi flamboyante que ce qu'il a été ?
La lignée n'est pas aussi flamboyante. Son frère, enfin ses frères, il y en a un qui est mort malheureusement très jeune, du vivant des parents d'ailleurs, en 1805, qui est toujours enterré à Port-Louis de l'Île-de-France. Un autre qui est devenu baron par lettre patente de Louis XVIII. Et c'est assez amusant. J'ai commencé le livre par les obsèques, parce que les obsèques en 1827 montrent un monde d'ancien régime qui est à nouveau présent. Le frère est devenu baron Surcouf. la fille, les belles-sœurs, la comtesse de Bellevue. On se retrouve dans un convoi funéraire à bord de petites embarcations qui ramènent la dépouille très sobrement à Saint-Malo. Et on a l'impression presque que la révolution n'a pas eu lieu. On a effacé les aigles du temps de Napoléon, tous les symboles de l'Empire. Et c'est un terme en 1827 à cette période extrêmement à la fois passionnante et troublée qu'ont été toutes ces années de la Révolution et de l'Empire.
Anse-Courcouf a laissé aussi une postérité dans la marine française. Il y a plusieurs bâtiments qui portent son nom, il y a des sous-marins, il y a des frégates aussi. Donc il fait partie de ceux qui ont eu la chance, l'honneur de donner des noms, ce qui montre aussi la postérité de cet homme, enfin qui est reconnu comme quelqu'un d'important, puisqu'il est digne d'avoir son nom qui est accolé à nos frégates.
Tout à fait, non seulement la marine nationale honore son nom, mais j'ai passé mon enfance dans un immeuble à Toulon qui s'appelait Le Surcouf, et ça m'a d'ailleurs un petit peu amusé donc d'écrire cette biographie en pensant à mes parents qui avaient acheté cet appartement en 1958 dans un grand port militaire. Surcouf n'a pas été un militaire, mais il a été un combattant.
On a évoqué tout à l'heure la ville de Saint-Malo et ce qu'elle représente dans la marine française. À l'époque moderne, quels sont les grands ports militaires français ? Alors, Toulon, Dunkerque et Brest sont aussi déjà à l'époque des grands ports ?
Toulon et Brest. Du temps de Richelieu, il y a eu une enquête qui a été faite sur tous les ports de France par M. de Séguiran, en particulier pour la Méditerranée. M. de Séguiran était président du Parlement d'Aix-en-Provence. Et cette liste est incroyable parce qu'on compte comme ports Fréjus, La Ciotat, Bandol, Sanary, enfin vrai. Et on les met au même pied que Toulon. Et Toulon, depuis Charles VIII, j'ai fait une histoire de Toulon il y a une trentaine d'années, Toulon est devenu le premier port de guerre français. C'est le premier port du temps de Richelieu, du temps de Mazarin et du temps de Colbert. Lorsque Colbert est aux affaires en 1665, imaginez ce qu'est Brest, 2000 habitants, c'est-à-dire la limite aujourd'hui entre la ville et le village. Et Brest n'a 15 000 habitants qu'à la mort de Louis XIV. La population a multiplié pratiquement par 8 en 50 ans, entre 1665 et 1715. Alors pourquoi Toulon et pourquoi Brest ? Uniquement pour des questions de tirant d'eau. C'était les deux seules rades, la Penfeld et puis la rade de Toulon, la plus belle rade de Méditerranée, dit-on, qui pouvaient accueillir ces gros vaisseaux artillés, c'est-à-dire montés de 100 à 120 canons à peu près à Brest et Toulon. Alors Colbert a essayé de faire communiquer la Méditerranée avec la façade atlantique et on a donc fait le canal du Midi de façon à pouvoir transporter des galères fabriquées, elles, construites à Marseille jusqu'à Rochefort. Et le cousin germain de Colbert a construit le port de Rochefort à partir de 1665-66, mais Rochefort était à 20 km de la mer, était dans la Charente. Et lorsque les vaisseaux de Colbert, qui étaient des vaisseaux de 60-74 canons, sont devenus sous Seignelay des vaisseaux de 90-120 canons, ils ne pouvaient plus remonter la Charente. Ce qui fait que Rochefort a décliné et il est resté Toulon et Brest. Ce qui change tout, c'est 1704. 1704, vous avez la Royal Navy qui prend Gibraltar. Et à partir du moment où les Anglais sont à Gibraltar, ils vont d'ailleurs s'installer ensuite à Minorque en 1707. Ils vont lorgner la Corse et prendre Bastia en 1745. Ils recommenceront en 1794. Mais à partir du moment où ils sont à Gibraltar, la Méditerranée est un lac anglais. Et donc Toulon décline tout au long du 18e. Brest devient le premier port de guerre. Et Marseille décline tout au long du 18e. Et Bordeaux, en 1789, devient le premier port de commerce. Et donc Brest et Bordeaux vont s'envoler. Saint-Malo restera un petit port secondaire, surtout un port de commerce. Ça n'est pas un grand port négrier, c'est un grand port corsaire. Les grands ports négriers, c'est Nantes et Bordeaux, mais c'est une ville corsaire. essentiellement sous Louis XIV. La grande époque de Saint-Malo, ça a été bien étudié d'ailleurs par André l'Espagnol, qui était un de mes collègues et qui a disparu récemment, qui était vraiment le spécialiste de Saint-Malo. Et à partir du XVIIIe siècle, Saint-Malo n'a plus la grandeur qui était la sienne au moment de la guerre de la Ligue d'Augsbourg sous Louis XIV.
Vous évoquez la montée de Bordeaux et Brest et le déclin de Toulon et Marseille. C'est dû évidemment à la présence anglaise, mais est-ce que ce n'est pas dû aussi au fait que le commerce transatlantique se développe là, avec l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, et que finalement la présence barbaresque en Méditerranée fait qu'il y a beaucoup moins d'échanges à l'intérieur même de la Méditerranée?
Oui, tout à fait. La Méditerranée se trouve bloquée après 1704. On le voit d'ailleurs sous Louis XV avec la fameuse escadre du Levant en 1759 qui essaye de sortir de Gibraltar, et le malheureux chef de cette escadre, qui est monsieur de la Clue-Sabran, eh bien, se dit bah, pour échapper aux Anglais, je vais traverser Gibraltar en éteignant toutes les lanternes de mon escadre. Et le lendemain matin, son escadre se réveille au milieu de l'escadre anglaise de Boscawen, et du coup, sa flotte est complètement détruite. Et donc la Méditerranée décline. Alors c'est vrai qu'il y a la course barbaresque qui joue un rôle très important et qui tous les ans vient attaquer les négociants, en particulier au moment de la foire de Beaucaire, donc en Méditerranée. Et cette course qui est en partie à l'origine de la conquête de l'Algérie en 1830, puisque les puissances, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit également les États-Unis, souhaitaient évidemment éradiquer cette piraterie, parce qu'on l'appelle course, mais c'était essentiellement une piraterie barbaresque qui était née avec la création de la Régence d'Alger en 1516, du temps de Barberousse.
Finalement, il faudra la prise d'Alger par les Français d'une part, et puis après l'ouverture du canal de Suez pour refaire de la Méditerranée d'abord une mer fréquentable, et ensuite après l'ouverture vers faciliter vers l'Asie.
Tout à fait. Donc lorsque on va ouvrir ce canal de Suez en 1869, qui va être inauguré par l'impératrice Eugénie, qui va d'ailleurs faire une escale en Corse, au Cap Corse, où il y a toujours un sentier aujourd'hui dans le petit village de Rogliano qui s'appelle le sentier de l'impératrice, parce qu'elle y a débarqué le 2 décembre 1869, donc juste à la veille de la défaite de Sedan l'année suivante, en septembre 1870. La Méditerranée va être revivifiée du temps de Napoléon III, et les Anglais qui se sont installés à Gibraltar en 1704, à Minorque en 1707, à Bastia en 1745, n'ont qu'un rêve, c'est de réunir le Cap au Caire, et ça sera leur volonté pendant tout le XIXe siècle de dominer la Méditerranée, puis ensuite l'Égypte, d'où les affaires de Fashoda en 1898, etc.
Vous avez beaucoup écrit sur la Corse et les Corses. On trouve des Corses dans l'entourage de Surcouf? Parce qu'il y en a beaucoup dans l'entourage de Napoléon, évidemment, il y a aussi d'ailleurs des opposants. Vous avez publié une biographie de Paul Zodiborg, qui était l'ennemi juré de Napoléon. Est-ce qu'on trouve des... Parce que les Corses sont très présents dans la marine et dans le commerce.
Alors, je parle aussi dans ce Surcouf de Corse et de Monégasque et de Méditerranéens. Lui n'en a pas connu, n'en a pas fréquenté. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est la ressemblance. C'est-à-dire que dans ces régions qui sont finalement très pauvres, avec des terres qui sont très pauvres à labourer. Quand vous pensez aux rochers de Monaco, où les Grimaldes étaient des pirates au départ, et puis des corsaires, et puis après des princes souverains jusqu'à aujourd'hui. Quand vous pensez au Cap Corse et aux rochers qui étaient une île à l'origine de Saint-Malo, le seul terrain à labourer, c'était la mer. Et par conséquent, ces hommes étaient des aventuriers, des commerçants. Il y a énormément de similitudes, puisque je suis en train de faire un autre livre en ce moment sur le Cap Corse et sur la Corse en général, sur les marins, sur 5 siècles de migration des Corses dans le monde. Et ce sont de jeunes aventuriers. Ils sont tous épuisés, le scorbut, la maladie, les poumons, des maladies pulmonaires. Ce sont des carrières qui s'arrêtent à 35 ans. et ils deviennent armateurs. Et tout l'armement de Marseille au fin 17e, au 18e, ce sont des Cap-Corsins qui dominent à Marseille. Et donc, le parallèle entre la famille Surcouf et puis un très grand nombre de familles corses ou monégasques est assez étonnant. Et je montre aussi ce parallélisme entre ce type de famille dans le bouquin.
Eh bien, merci beaucoup, Michel Vergé-Franceschi, d'avoir évoqué la figure de ce Malouin au service de la France et de la mer qui est Surcouf. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage « Surcouf, la fin du monde corsaire » qui est paru chez Passé Composé. Comme pour chaque émission, les références de l'ouvrage sont à retrouver sur le site internet revueconflit.com, site sur lequel vous pouvez également retrouver notre numéro en kiosque qui est consacré au nucléaire et nos anciens numéros que vous pouvez acquérir au format papier et au format numérique. Et puis également les cours conflits, c'est la nouveauté de cette année 2022 que vous pouvez là aussi retrouver sur notre site internet. Vous aurez toutes les explications et toute la présentation pour pouvoir vous inscrire et suivre ces cours. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci.